qui se trouve dans le chapitre 9 de l'évangile de Jean. Je vais lire ce chapitre dans son entier, dans une traduction en français fondamental. Bon, c'est ma nouvelle Bible. C'est un peu une traduction étonnante parce qu'elle est très simple. C'est le français fondamental, il y a ces 5000 mots. Donc, nous qui avons l'habitude de la vieille Bible avec les vieux trucs, là, c'est parfois décoiffant. Ils utilisent, c'est le choix du traducteur, un présent narratif, c'est-à-dire tout est au présent. Donc, alors, on peut afficher le chapitre 9 ou alors vous écoutez dans ma traduction. Donc, c'est la guérison d'un aveugle de naissance par Jésus. Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent « Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance. Donc, qui a péché, lui ou ses parents ?» Jésus répond « Ni lui ni ses parents. Mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. » Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après que Jésus a dit cela, il crache par terre. Avec sa salive, il fait de la boue et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, il lui dit, « Va te laver dans l'eau de Siloé, dans l'eau à Siloé. » Le nom Siloé veut dire « envoyé ». L'aveugle y va et il se lave. Quand il revient, il voit clair. Cet homme était mendiant. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir avant disent « Est-ce que ce n'est pas l'aveugle qui est assis et qui mendiait ?» Les uns disent « Oui, oui, c'est lui. » D'autres disent « Non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais l'homme dit « C'est bien moi. » Alors les gens lui demandent « Tes yeux se sont ouverts comment ?» Il répond « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il l'a mise sur mes yeux et il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et maintenant je vois clair. Les gens lui demandent, où est-il cet homme? Il répond, je ne sais pas. On conduit chez les pharisiens l'homme qui, avant, était aveugle. Le jour où Jésus a fait de la boue et a ouvert les yeux de l'aveugle, c'était le jour du sabbat. Les pharisiens, eux aussi, demandent à l'homme, « Tu vois clair maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé ?» L'homme leur dit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Quelques pharisiens disent, « L'homme qui a fait cela ne vient pas de Dieu. En effet, il ne respecte pas le jour du sabbat. » Mais d'autres disent, « Un homme qui est pécheur ne pourrait pas faire des signes étonnants. » Les pharisiens ne sont pas d'accord entre eux. Alors, il demande encore à l'homme, « Qui était aveugle? Et toi, qu'est-ce que tu dis de celui qui t'a ouvert les yeux ?» Il répond, « C'est un prophète. » Mais les chefs juifs ne veulent pas croire que cet homme était aveugle et que maintenant il voit clair. C'est pourquoi ils font venir ses parents. Ils leur demandent, « Est-ce que cet homme est bien votre fils? Vous dites qu'il est aveugle depuis sa naissance. Maintenant il voit. » Qu'est-ce qui s'est donc passé? Les parents de l'homme répondent, nous ne le savons, c'est bien notre fils, il était aveugle depuis sa naissance, maintenant il voit clair. Mais ce qui s'est passé, nous ne savons pas. Qui lui a ouvert les yeux? Nous ne savons pas. Interrogez-le, il est assez grand, il répondra lui-même. Les parents disent cela parce qu'ils ont peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci se sont déjà mis d'accord. Ils vont chasser de la maison de prière tous ceux qui affirment « Jésus est le Messie ». C'est pourquoi les parents de l'homme disent « Il est assez grand, interrogez-le ». Alors, pour la deuxième fois, les pharisiens appellent l'homme qui était aveugle et lui disent « Dis la vérité devant Dieu. Nous, nous le savons. Celui qui t'a guéri est un homme pécheur. » Il leur répond « Je ne sais pas si c'est un pécheur. » Mais je sais une seule chose, j'étais aveugle et maintenant je vois clair. Il lui demande, qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment est-ce qu'il t'a ouvert les yeux? L'homme leur répond, je vous l'ai déjà dit, mais vous ne m'avez pas écouté. Vous voulez l'entendre une deuxième fois? Pourquoi donc? Vous avez peut-être envie de devenir des disciples de Jésus, vous aussi. Alors ils se mettent à l'insulter et lui disent, « C'est toi qui es le disciple de cet homme. Nous, nous sommes les disciples de Moïse. Nous, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais cet homme-là, nous ne savons d'où il vient. » L'aveugle guéri leur répond, « Voilà une chose étonnante, il m'a ouvert les yeux et pourtant vous ne savez pas d'où il vient. » Nous le savons, Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais il écoute celui qui est fidèle envers lui et qui fait sa volonté. On n'a jamais entendu dire « quelqu'un a ouvert les yeux d'un homme qui est né aveugle ». L'homme qui a fait cela vient de Dieu, sinon il ne pourrait rien faire. Ils lui répondent « Depuis ta naissance, tu es tout entier dans le péché et tu veux nous apprendre quelque chose ?» Alors ils le mettent dehors. Jésus apprend que les pharisiens ont mis dehors l'aveugle guéri. Jésus va donc le trouver et lui dit « Est-ce que toi, tu crois au Fils de l'homme ?» L'homme lui répond « Seigneur, qui est-ce ? Je veux croire en lui. » Jésus lui dit « Eh bien, tu le vois, celui qui te parle maintenant, c'est lui. » L'homme dit « Seigneur, je crois. » Et il se met à genoux devant Jésus. Ensuite, Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient clair et pour que ceux qui voient clair deviennent aveugles. Voilà le jugement. » Quelques pharisiens sont là. Ils entendent les paroles de Jésus et lui demandent « Est-ce que nous sommes aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répond « Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas pécheurs. Mais en fait, vous dites « Nous voyons clair. » C'est pourquoi vous restez des pécheurs. Seigneur, nous te prions pour cette parole. Merci de me l'avoir inspirée. Je te prie, Saint-Esprit, de me conduire et de nous conduire à la comprendre. Amen. Et pas mal cette traduction, vous ne trouvez pas? Je ne sais pas si c'était ça qui était affiché. Ah ben oui, c'est ça qui était affiché. Alors, ce texte m'est tombé dessus dans ma lecture cursive. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi. Et en pensant à méditer, en pensant à ce message de ce matin, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Et en pensant au message de Jean-Michel de la semaine dernière, c'est un peu comme une réponse ou un écho à la prédication de la semaine dernière sur, vous vous souvenez, le serpent qui mord sa queue. Je ne sais plus comment il s'appelle, Ouroboros. Hein. Et ce qu'il représente, vous savez, le cercle vicieux, le cycle infernal, les choses qui ne peuvent pas changer, car c'est la faute. Ah, alors la liste, elle est grande, hein, c'est la culture, dans certaines cultures, voilà, c'est comme ça, Inch'Allah. La société, les parents, les ancêtres, la génétique, les addictions, les karmas, hein, tout ça, Jean-Michel nous en a parlé, qui fait que les gens sont dans une sorte de cercle infernal, de serpent qui se mord la queue. Et le fond de tout ça, c'est un fatalisme. Voilà, tout ce qui nous arrive parce que, voilà, il y a eu plein de choses. On est déterminé par tout ça et on ne peut pas s'en sortir. Alors ici, dans ce texte, c'est un démenti cinglant par la guérison de cet aveugle de naissance. Jésus, par cet acte, montre d'abord qu'il est souverain, qu'il est le maître de la vie, qu'il est le maître de la maladie. Ici, c'est la maladie, ailleurs, ça sera la mort, ailleurs, ça sera des esprits mauvais. Il est le souverain, il peut tout, il guérit, et quand il vient, la fatalité tombe. Ce qui se produit depuis des générations, des décennies, tombe, cesse. Parce que devant le Seigneur, la mort et toutes les manifestations du diable reculent. Alors, d'abord, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il opère une guérison de façon particulière. Jean nous parle de Jésus qui crache à terre, qui fait avec de la boue, avec de l'argile, de la boue, qu'il applique sur les yeux de cet aveugle de naissance et lui dit d'aller se laver dans une fontaine qui s'appelle Siloé et qui veut dire envoyer. Et l'homme est guéri. On voit une guérison en plusieurs étapes. S'ensuit une enquête. Les chefs religieux mènent l'enquête. Il s'est produit un travail, une guérison le jour du sabbat. C'est inacceptable. Et ils interrogent une première fois cet homme, puis les parents de cet homme, puis une deuxième fois cet homme. Et comme souvent, cet acte de Jésus provoque le débat, la polémique, un échange même savoureux. Je trouve que c'est même amusant de voir la façon dont cet homme guéri répond au chef religieux. Enfin, c'est rigolo même. Dire voilà, vous êtes les chefs de la loi, vous voyez pas ce qui s'est passé dans ma vie et vous voulez devenir les disciples de Jésus. Enfin, c'est amusant, c'est savoureux. Et cet échange avec l'homme et puis la famille, les parents, se fait en l'absence de Jésus. Et puis l'histoire se termine par la rencontre, la deuxième rencontre de l'homme guéri et de Jésus. Et là, l'homme reconnaît, accepte que c'est le Fils de l'homme. Il croit et il se met à genoux en signe d'adoration. Et puis comme souvent, Jésus, après avoir fait cet acte, enfin en tout cas c'est le cas dans l'évangile de Jean, Jésus déplace le débat sur le terrain spirituel. Et là, il va parler d'un autre aveuglement, hein, non pas physique, mais un aveuglement spirituel. Hein, des gens qui croient voir, qui en fait sont aveugles. Et Jésus est coutumier du fait. Hein, souvenez-vous, dans Jean 4, il voit cette femme samaritaine, il lui demande de l'eau à boire parce qu'il a soif, il est fatigué. Et puis, il déplace le problème sur le terrain spirituel. Tu me donnes de l'eau, mais moi je vais donner de l'eau spirituelle qui va étancher ta soif. Dans le chapitre 6, Jésus multiplie le pain, hein, pour 5000 hommes. Et puis ensuite, il dit, voilà, moi je suis le pain de vie. Vous êtes venus manger du pain, mais moi je vais vous donner le pain de vie. Je suis le pain de vie. Dans Jean 11, Jésus guérit Lazare et il déclare ensuite qu'il est la résurrection et la vie. Et il fait tout un discours sur qui il est. À chaque fois, Jésus, à partir de ses actes, dévoile qui il est. Quelle est cette personne ? Et là, il apparaît comme justement le briseur de karma, de mauvais karma, le briseur de la fatalité mauvaise, celui qui met un terme à un cercle infernal. Première chose, avec Jésus, il n'y a pas de cas irrécupérable. Il n'y a pas de situation sans issue. Vous pensez peut-être à une situation qui vous chagrine, qui vous préoccupe. Eh bien, dites-vous, avec Jésus, il n'y a pas de situation irrécupérable. Il n'y a pas de gens irrécupérables. Moi, je prie pour pas mal de gens et quand je pense avec mes yeux humains à ces situations, je dis, mais ces gens sont dans une impasse. Je ne vois pas l'issue, je ne vois pas la sortie. Il n'y en a pas, humainement, il n'y en a pas. C'est comme bloqué, c'est comme fermé. Mais là, je déclare qu'il n'y a pas de situation sans issue. Quand je pense à certaines personnes, au fin fond de leur addiction, au fin fond de leur détresse, eh bien, je proclame dans la foi que ces gens-là ne sont pas irrécupérables, que Dieu les aime. C'est ça, il faut avoir cette attitude de foi. Hein. Situation bloquée. Voilà un homme adulte, il est au moins majeur parce que les parents disent, bah, interrogez-le lui-même, il est adulte, il a peut-être 30 ans, 40 ans, aveugle de naissance, en situation d'handicap, depuis sa naissance il est aveugle, cela fait des décennies, et en plus il est connu, c'est un mendiant, voilà. Il a un mauvais karma, ça fait des décennies que ça dure, des décennies que cet homme mendie. Il est aveugle de naissance. La situation est bloquée. C'est un rebut de la société. On ne peut rien pour lui. C'est foutu. C'est foutu. Alors, on ne peut pas s'empêcher de se demander, mais comment ça se fait ? C'est la faute à qui ? C'est la faute à quoi ? Pourquoi en est-il arrivé là ? Et on cherche les causes. Et c'est ce que font les disciples. Mais qui a péché ? C'est lui ? C'est ses parents ? Et quelle est la réponse de Jésus ? Jésus coupe court aux questions des disciples. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, cette maladie, dans la traduction traditionnelle, c'est cette maladie va manifester la puissance et la gloire de Dieu. Et là, dans la traduction, c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Et dans ma traduction, c'est mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. La maladie, c'est l'occasion pour Dieu, au travers de Jésus, de manifester sa puissance et sa gloire. Et je note que c'est une guérison sans condition. Jésus ne pose aucune condition, il ne dit pas à l'homme, voilà, règle tes problèmes, arrête de pécher. C'est une guérison sans condition. Et c'est encore vrai aujourd'hui. C'est encore vrai aujourd'hui. Moi, il m'est arrivé de prier pour des gens dans la rue et les gens étaient soulagés, les gens étaient guéris. Beaucoup le font, certains le font dans les rues, lors de l'évangélisation. Peut-être qu'on aura l'occasion de le faire pendant le barbecue. Dieu est un Dieu qui guérit sans condition. Parce qu'il aime de façon inconditionnelle. Et telle devrait être notre... C'est une œuvre d'amour. La guérison est toujours une œuvre d'amour. Et telle devrait être notre réaction devant une impossibilité. Non pas, oh là là, c'est la faute à qui ? C'est la faute à quoi ? Mais c'est l'occasion de manifester la puissance et la gloire de Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni, que c'est mauvais de se poser des questions. Mais nos questions, est-ce qu'elles vont régler le problème ? Est-ce que nos questions font avancer les choses ? Non. Par contre, notre foi en la puissance, en la gloire de Dieu, manifestée dans telle situation impossible, voilà, c'est un aveugle né de naissance, mais ça peut être tel enfant qui s'obstine, qui s'enferme, ça peut être telle personne dans son addiction, telle situation complètement verrouillée, enfin, que sais-je ? Vous savez vos situations. Quelle est votre attitude devant cette situation, devant cette impossibilité ? C'est la faute à qui ? Qui a péché ? Ou c'est l'occasion de voir la gloire de Dieu se manifester ? La deuxième chose, qui a attiré mon attention, c'est le mode opératoire de Jésus. C'est plutôt curieux, hein ? De la boue, de la salive appliquée sur les yeux. Bon, je ne vais pas y chercher un sens particulier. Mais pour moi, ce n'est pas anodin. Et il y a une leçon dans cet acte, dans ce mode opératoire de la guérison. Le fait qu'il l'envoie se laver dans un lieu qui s'appelle envoyé. Et le guéri est appelé, est envoyé à être témoin. La guérison... Quand Dieu opère une guérison, doit normalement, et ce n'est pas toujours le cas, c'est vrai, doit normalement amener la personne à témoigner de ce qui s'est passé. C'est ce que fait cet homme. Il témoigne. Il est envoyé dans cette fontaine Siloé pour témoigner. Et c'est ce qu'il fait. J'étais malade, j'étais aveugle de naissance. Cet homme a appliqué de la boue sur mes yeux, de la salive, de la boue. Et maintenant, je vois clair. Il témoigne. Et toute guérison physique, spirituelle ou psychique doit donner lieu à un témoignage de ce que le Seigneur a fait, parce que le témoignage, ça booste la foi, n'est-ce pas ? Quand on entend quelqu'un qui est guéri, qui est libéré, qui a vécu une grâce dans sa vie, eh bien les autres sont encouragés. Et la deuxième chose, c'est que l'homme participe. Il participe à sa guérison. Il n'est pas passif. Il fait quelque chose. Et ça, c'est une pratique courante chez Jésus. Dans Jean 5, le paralysé, là encore de naissance, qu'est-ce qu'il lui dit ? Prends ton lit, lève-toi et marche. Allez, debout, participe à ta guérison. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Il nous fait participer à ce qu'il fait. Dieu, par sa grâce, par son intervention, nous met en capacité d'agir. Ça qui est formidable. Il renouvelle ou il crée en nous le vouloir et le faire. Peut-être que cet homme était découragé, habitué certainement à son état. Il mendie, il est comme ça formaté, voilà, je guérirai jamais. Voilà, tout ce que je peux faire, c'est mendier. Ça fait partie de sa nature. Eh bien, cet homme est en capacité d'agir. Il se lève et il va dans une direction. Et là, il trouve sa guérison. Il participe à sa guérison. Dans d'autres contextes, le Seigneur nous permet de faire les bons choix. Quelqu'un qui est dans une addiction, le Seigneur va le libérer pour lui permettre, après, dans la tentation, de résister à la tentation et de dire non, j'ai été libéré. Et le Seigneur renouvelle mon vouloir et mon faire. Et à partir de maintenant, je change d'habitude. Je n'ai pas été programmé pour cette addiction. J'ai été programmé pour la liberté. Et je suis libre. C'est ce que le Seigneur fait. Vous connaîtrez le Fils et le Fils vous affranchira. Et c'est cette vérité, et Jean-Michel a insisté là-dessus, sur la vérité, Jésus est la vérité, et cette vérité que le Saint-Esprit nous dit, tu es libre, tu n'es plus obligé de pécher, tu es libre, tu peux dire non à ce qui te rendait esclave, tu peux dire non, je te libère. La possibilité de faire de bons choix. Et là, c'est vraiment la réponse à cette mentalité humaine, cette vieille mentalité de ben, « j'y peux rien, c'est ma nature », ou « c'est plus fort que moi », ou « c'est la faute à », ou « c'est mon mauvais karma ». Vous avez plein de variantes de ça hein, dans le monde, même chez les chrétiens, hélas, mais c'est la même chose finalement. « Je n'y peux rien ». Alors, je veux mettre un bémol. Bien sûr qu'il faut traiter les causes. Il y a des liens qui tiennent les gens en servitude. Et c'est un mélange de mauvaises habitudes provoquées par de mauvais choix. Ça peut être aussi un héritage ancestral. Je connais quelqu'un, il est hanté par un esprit de suicide. C'est évident que c'est un démon. Pourquoi ? Parce que sa maman avait fait une tentative de suicide, son papa aussi. Et puis dans la famille, si on remonte, les choses se transmettent. Et il y a certainement voilà, des portes ouvertes et les démons qui s'infiltrent là-dedans et les gens qui sont sous influence. Je ne dis pas qu'ils sont possédés, mais les gens sont sous influence. Ils sont sous influence et ça les pousse à faire des choses graves, des choses mortifères. Je ferme la parenthèse. Mais là, la guérison, le Seigneur, c'est ce qu'il vise, la guérison. Il veut la guérison, l'affranchissement, la liberté. Et la guérison, de même que la délivrance, la guérison physique, la guérison spirituelle ou psychique, de même que la délivrance des démons, et même les résurrections, c'est notre héritage. Hein ? Paul dit que nous sommes héritiers de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez un peu, ça veut dire héritier de Dieu. On hérite de Dieu, nous sommes co-héritiers de Christ. Eh bien, nous héritons du royaume. Et dans le royaume, il y a ça. Il y a aussi ça. Et c'est aussi notre mandat, lorsque nous prêchons Christ, de prier pour les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts. C'est ce que dit Matthieu, hein, sur une même phrase. Jésus dit dans Matthieu, chassez les démons, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Moi, je ne désespère pas. Un jour, je verrai des résurrections. Ça fait partie du programme. Ou alors, si vous n'y croyez pas, déchirons les pages. Et puis, ayons un évangile édulcoré à la sauce libérale qui nous convient, contextualisé, blablabla, oui, c'était dans le temps, mais maintenant, blablabla, non. Voilà, on y croit, et on veut le vivre, et on le vit, et on le pratique. C'est notre héritage, c'est notre mandat, c'est notre mission. Amen. Il y a 3 personnes qui disent amen. Et les autres disent non. La troisième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est la question de l'aveuglement. Et là, Jésus, il parle d'un autre aveuglement. Il parle d'un aveuglement physique, quelqu'un qui était physiquement aveugle et qui voit, un autre aveuglement plus grave encore, parce qu'il pousse à rester les gens dans le péché, c'est l'aveuglement spirituel. Et là, il y a tout un débat. Il y a tout un débat, un faux débat même, autour de cet homme et de sa condition d'aveugle. Tout autour du péché, hein, tout tourne autour du péché. C'est la faute à qui ? Ça commence par les disciples, et on voit que Jésus répond en guérissant le malade. Et puis cela continue avec l'interrogatoire. Après l'avoir interrogé deux fois, une fois ses parents, la conclusion, c'est que l'auteur de la guérison, hein, c'est la conclusion des chefs religieux, c'est que l'auteur de la guérison ne peut pas venir de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. C'est un pécheur, verset 24. C'est répété une deuxième fois. Et puis, comme ils n'y comprennent rien, l'homme guéri de sa cécité est aussi un pécheur depuis sa naissance, verset 34. Voilà, tout tourne autour du péché. Et on voit ici à quel point l'aveuglement des chefs religieux est énorme. C'est pourtant clair, sans faire de jeu de mots, c'est pourtant clair. Voilà un homme aveugle de naissance, qui est guéri, et il voit clair. Et il voit clair deux fois. Il voit clair physiquement, il ne voyait rien, il voit. Et la deuxième fois, il voit clair sur qui est l'auteur. Lui, il voit clair. Il voit clairement que ben, cet homme-là, ben, je ne sais pas qui c'est, mais bon, j'ai un peu de logique. Je ne voyais plus, il m'a mis des trucs dans les yeux, maintenant je vois. Bon, c'est quelqu'un de bien, parce que Dieu, il ne répond pas aux pécheurs, c'est forcément quelqu'un de bien. À minima, c'est un prophète, c'est ce qu'il dit, c'est un prophète. Il n'y connaît rien, le gars. Il commence déjà à évangéliser. Ah, c'est un prophète. J'étais malade, maintenant je vois, cet homme ne peut être qu'un homme de bien. À minima, c'est un prophète. C'est d'une logique limpide, ça coule de source. Enfin, n'importe quel crétin, enfin, excusez-moi du terme, le verrait, enfin, verrait clair, enfin, c'est d'une évidence, d'accord. C'est limpide, c'est logique. Eh bien non. Ce n'est pas pour, les chefs religieux qui s'embrouillent dans des explications. Et là, Jésus, dans le verset 39, il croise les deux niveaux d'aveuglement. Et c'est une parole qui est dure. « Je suis venu dans le monde, dit-il, pour que les aveugles voient clair et pour que ceux qui voient clair deviennent aveugles. » Voilà le jugement. Et dans toute œuvre de Dieu, il y a un jugement. Dans la guérison, dans n'importe quel acte de Dieu au travers de Jésus-Christ, il y a un jugement. Un jugement sur la chose elle-même. Ici, le jugement, c'est que la maladie n'a pas le dernier mot, ne peut pas avoir le dernier mot. Même la mort ne peut pas résister au Tout-Puissant. Ça, c'est le jugement de Dieu. Il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Et puis, il y a aussi un jugement pour ceux qui ne croient pas, qui résistent, qui s'entêtent, qui s'obstinent. Ce n'est pas possible. Qui rationalisent, que sais-je. Là aussi, il y a un jugement. Un jugement d'aveuglement. Et là, hélas, même Christ ne peut rien. Et prions pour que nous ne soyons pas de ceux-là qui s'endurcissent. Et l'endurcissement, c'est très sournois. Hein, ça commence par des doutes, ça commence par des interrogations au départ légitimes, et puis après, ben, de l'incrédulité, petit à petit, qui fait son chemin. Et puis, un endurcissement. Et Hébreux nous met en garde contre l'endurcissement qui mène au péché, justement. Et ayons garde de ne pas tomber dans l'endurcissement. C'est ce que ces chefs religieux sont. Ils sont aveugles, ils sont endurcis. Les non-voyants voient, et les voyants deviennent aveugles. C'est quand même paradoxal. Et dernière chose, je voudrais finir là-dessus, c'est que l'histoire se termine par une deuxième rencontre, et dans l'idéal, c'est ce qui devrait se produire tout le temps, c'est cet homme guéri revoit celui qui l'a guéri, l'auteur de sa guérison, et il se présente comme le Fils de l'homme, là encore, non pas le Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme, et il croit, et il plie le genou, et il adore. Toute intervention divine, ici c'est la guérison, ailleurs ça pourrait être autre chose, devrait nous conduire à la foi. À la foi, je crois, et à l'adoration. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le vivant. Il n'y a aucune situation que tu ne puisses résoudre. Quelqu'un a dit tout à l'heure dans la prière, tu es la solution. Alors nous voulons, avant la Sainte Cène, te remettre nos situations bloquées. Et là, je vous invite à les nommer dans votre cœur. Il y a des situations bloquées dans vos vies. Ça peut être une personne, ça peut être une difficulté, que sais-je, une situation. Nommez-la et déposez-la au pied du Seigneur. Et entrez dans une démarche de foi et dites-lui au Seigneur, je crois que cette situation, tu la connais, que cette situation, tu connais la réponse et que tu es la solution. J'ai foi en toi. Dites-lui au Seigneur, pour telle et telle situation, pour telle et telle personne, regardez avec foi. Ne regardez pas avec vos yeux humains, mais regardez avec foi. Amen.
Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ce message que nous venons de recevoir. Seigneur, c'est le moment où nous allons prendre la scène.